94.1.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Présence midi, il est exactement midi sur nos pendules. On est très heureux avec toute l'équipe de vous accompagner durant votre pause déjeuner ou peut-être vos vacances si vous êtes de passage dans notre région. Coup d'œil sur le sommaire de cette émission, direction Lourdes et le château fort de Lourdes plus précisément pour découvrir ou redécouvrir ce musée qui s'appelle le musée pyrénéen qui est dans l'enceinte du château fort de Lourdes. Ce sera avec Julie de l'office de tourisme. Puis vous le savez peut-être, les mimosas ont été découverts en Australie. Ce sont les Anglais qui ont importé le mimosa à la fin du 19e siècle en s'installant sur la côte d'Azur. On en parlera dans les causeries vertes avec Annick Baléry. Et puis on fera également des tours par l'abbaye de Tournaille avec Frère Martin qui durant cet été nous conseille des livres à lire. Cette semaine, il a sélectionné l'ouvrage de Samuel Liévin qui a fait se rencontrer deux dames, Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel qui a été assassinée à Saint-Étienne-de-Rouvray, et Nasser Karmiche, la mère du terroriste. Ce livre s'appelle « Sœur de douleur », il viendra nous en parler aux alentours de 12h30. Ce sera également à 12h30 le moment de faire un point sur l'actualité régionale avec Carla Ponce de l'école de journalisme de Toulouse. Voilà pour les grandes lignes de ce Présence Midi qui débute en musique avec un extrait du spectacle musical Bernadette de Lourdes.
Au fond du mien et de l'amour qui me revient, des souvenirs qui pleurent en moi, mais on n'a plus le temps pour ça. Bien sûr que je n'étais pas tendre, je ne savais pas comment m'y prendre. Avec l'amour, avec l'enfance, je ne parlais que par silence. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Le père qu'on a. Sans un père, on est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père d'être un homme? Un homme qui te dira ma fille je t'aime, qui t'apprendra à faire de même, qui te tiendra encore la main quand tu voudras pleurer pour rien. Pour toutes les fois où j'étais là, quand tu avais besoin de moi, en te donnant ce que j'ai pu, ce que j'avais, en quoi j'ai cru. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite le père qu'on a? Sans un père, on est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de n'être qu'un homme? Qu'un homme. Sans un père, on est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de n'être qu'un homme?
Un homme. extrait du spectacle musical Bernadette Delourde, N'être qu'un homme. Dans un instant, Anne Lasserre et le regard des écrivains sur les Pyrénées. Auparavant, en direction l'office de tourisme de Lourdes. On va maintenant emprunter le chemin de Bernadette avec Laurent de l'office de tourisme. Bonjour Laurent.
Bonjour Gilles.
Très heureux de vous retrouver pour parler donc des chemins de Bernadette. 14 totems explicatifs sur les lieux qui retracent la vie de Bernadette Soubirous à Lourdes.
Exactement. Donc aujourd'hui, je vous emmène en fait marcher. Alors pas n'importe où, hein. Je vous emmène marcher sur les pas de Bernadette Soubirous, sur un tout nouveau parcours immersif qui vient d'être mis en œuvre en fait par la ville de Lourdes. Son nom donc c'est bien le chemin de Bernadette.
Et donc 14 totems explicatifs, et puis il y a aussi des spots vidéo à télécharger, on va en parler dans un instant, mais peut-être pour les auditeurs, on peut expliquer où sont ces totems explicatifs pour qu'ils retracent la vie de Bernadette.
Exactement, alors c'est un itinéraire de 4 km en cœur de ville, qui avait déjà été inauguré il y a de cela 2 ans, si je dis pas de bêtises, et donc balisé au sol par des clous en laiton. Ça c'était la première partie du travail voilà qui avait été mise en œuvre, et là maintenant donc ont été positionnés les totems, donc sur en fait tous les espaces de vie que Bernadette a pu en fait connaître, donc sa maison natale, la maison où elle vivait du temps des apparitions, mais aussi on va retrouver l'église paroissiale, on va retrouver en fait le musée Sainte-Bernadette, on va retrouver le pont Saint-Michel, enfin différents endroits soit contemporains de son époque, soit qui sont en lien en fait avec elle forcément.
Alors 14 lieux, et puis il y a aussi des totems explicatifs avec des messages audio et aussi des spots vidéo à télécharger.
C'est justement ça la nouveauté, donc ce qui fait la force de ce parcours, c'est sa dimension immersive. Ça veut dire effectivement que déjà c'est ouvert à tout public, c'est opérationnel 24h/24, donc on peut y aller quand on veut en toute saison. C'est aussi accessible pour les personnes à mobilité réduite, bon même si on connaît Lourdes, il y a quand même quelques pentes, mais c'est faisable. Et c'est aussi un outil adapté en fait aussi à différents type de handicap, puisque il est adapté avec une partie FAL, qu'il est adapté puisqu'on a aussi des textes en fait audio, donc pour les malvoyants en fait c'est aussi facile d'écouter. Il est en 7 langues, voilà, et donc les totems expliquent en fait une partie de l'histoire. On peut via le QR code en fait télécharger en fait l'audio de ce qui est expliqué, donc on va l'avoir dans les différentes langues: français, anglais, espagnol, italien, néerlandais, allemand et polonais de mémoire. Voilà, et on a surtout 5 étapes clés où là par contre on va aller un peu plus loin. Le QR code va ramener sur une vidéo en fait en 360 qui a été tournée en fait l'automne dernier, et là du coup vous retrouvez un clin d'œil en fait dans le Lourdes du 19e siècle, à l'époque de Bernadette, au Moulin, dans les rues du bourg, enfin voilà, différents endroits, et là on plonge réellement dans la vie à l'époque du temps de Bernadette.
Alors ces vidéos, ce sont des reconstitutions donc du temps de Bernadette, et on peut noter qu'une des actrices qui joue le rôle de Bernadette est bien connue à Lourdes.
Oui, alors c'est Emma du spectacle musical Bernadette de Lourdes en fait qui a gentiment accepté de prêter en fait son visage et sa voix à ces vidéos, et donc elle s'est prêtée au jeu, et donc on va la retrouver effectivement sur quelques vidéos immersives expliquant un peu tout ça.
Vous l'avez dit, c'est un service donc qui est forcément disponible 24h/24. À noter que c'est gratuit, c'est assez simple d'utilisation. On flash un QR code et on tombe directement sur les messages audio ou vidéo.
Exactement, c'est très simple d'utilisation. Il y a pas vraiment d'application à télécharger. Il suffit juste de flasher, et ça fonctionne rapidement sur les téléphones portables. Et en même temps, on a aussi équipé sur les vidéos immersives de relais Wi-Fi en fait, où les gens pourront aussi se connecter pour avoir en fait toute la puissance qu'il faut pour charger les vidéos. Voilà. Donc c'est vraiment un projet qui vise à réinventer la destination tout en préservant son âme. En fait, voilà, l'idée c'était qu'on reste bien dans les traces de Bernadette, sans dénaturer, mais en venant rajouter en fait des éléments un peu plus contemporains au niveau de l'animation et de la pédagogie.
Ça s'appelle le chemin de Bernadette, donc ça se trouve évidemment à Lourdes, hein, sur 14 lieux différents. On peut se renseigner si on le souhaite auprès de l'office de tourisme de Lourdes.
Exactement, on a les informations sur le site web aussi, voilà, on va tout trouver, et on attend donc les visiteurs et on attend aussi les retours des gens, on espère qu'ils seront positifs, voilà.
Un grand merci Laurent de l'Office de Tourisme, et à très bientôt pour une nouvelle chronique Balade en Pays de Lourdes.
Merci Gilles, à bientôt à Lourdes.
La suite de Présence Midi dans un instant, c'est avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. Anne Lasserre et Philippe Subercaz, et à 12h30, l'actualité régionale sera de retour.
Il est lundi, maudit matin, ce que je fais ne me plaît pas, c'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé, d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas de vivre, n'attendons pas de vivre. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin. Mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non, mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non, mais la paix. On n'a pas le temps de languir.
Présence à Sévrac-le-Château, 102.3.
Bonjour Nalasser.
Bonjour Philippe.
Merci d'être fidèle à Radio Présence. Merci d'être avec nous. Alors on revient au format traditionnel qu'on connaît bien sur Radio Présence, où vous allez nous lire des passages que vous avez sélectionnés dans les livres et dont vous avez choisi en évoquant la création du musée pyrénéen à Lourdes.
Et oui Philippe, nous enregistrons ces chroniques dans les studios de Radio Présence à Lourdes et nous voyons par les fenêtres, nous admirons par les fenêtres le musée pyrénéen qui se dresse sur son piton rocheux. Donc il était temps, à mon avis, d'évoquer sa fondation.
Tout à fait, parce que le musée se trouve dans le château fort. Hein. Voilà.
Oui, ouais. Ah, voilà, oui, c'est vrai.
Exactement.
Oui, c'est exact. Et nous devons sa création à Marguerite et à Louis le Bon Didier, qui se sont pris de passion pour les Pyrénées, pour leurs habitants, pour les traditions, à un point tel que Marguerite Le Bon Didier décide même, Philippe, de se faire appeler Margalide, un dérivé de Marguerite usité dans les Pyrénées.
Ils habiteront même dans le château. Et à la mort de son mari, Margalide Le Bon Didier reste dans le château et poursuit l'œuvre commencée il y a près de 30 ans. Elle a alors 67 ans. On écoute donc le récit que vous avez sélectionné pour nous.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Dans un ouvrage qui s'intitule « Femmes d'exception en Midi-Pyrénées », la journaliste Philippine Arnal évoque Marguerite Louville, née en 1879, qui, par son mariage, devient Marguerite Le Bon Didier. Quand Louis Le Bon Didier, receveur de l'enregistrement, est nommé à Campan, tous deux découvrent les Pyrénées, se passionnent pour ces montagnes et fondent à Lourdes le musée pyrénéen. Sur le manche de son piolet et sur celui de son mari, Marguerite a gravé le nom de 15 sommets de plus de 3000 mètres qu'ils ont gravis ensemble, écrit Philippine Arnal. En moins de 2 ans, depuis leur arrivée à Campan en juillet 1901, ce jeune couple, originaire, elle des Ardennes, lui de Lorraine, a déjà réalisé la plupart des randonnées possibles dans la région et conquis de nombreux pics. Ils sont éblouis par les montagnes, le ciel, les lacs, les glaciers. Ils ne s'en détacheront plus. En quelques mois, ils enchaînent les grands classiques de la région. Le cirque de Gavarnie, le lac de Gaube et le Bastia de Hesche, le pic du Midi de Bigorre. Puis les monts de plus de 3000 mètres, Néouvielle, le Mont Perdu et les deux pics d'Astazou, la Mounia, la Netto. Ils partent même pour un mois en randonnée avec un guide dans le but d'atteindre plusieurs sommets entre le Mont Artaud et les Posets dans les montagnes catalanes et aragonaises. Le jeune couple, toujours accompagné de son chien Vénasque, est passionné par cette région d'altitude, au point que Marguerite décide de changer de prénom pour celui de Margalide, son équivalent local. Margalide, en Bigorre, est aussi une fée, partagée entre le monde du visible et celui de l'invisible. De son côté, Louis, receveur de l'enregistrement, se documente sur l'histoire régionale et cristallise son centre d'intérêt dans la création, en novembre 1903, de la Fédération internationale des sociétés pyrénéistes, dont il restera le secrétaire général pendant 43 ans. Après avoir atteint au moins 22 pics de plus de 3000 mètres, Margalide est aussi la première femme des Pyrénées à chausser les skis, ce sport venu des pays nordiques. Mais c'est justement cette nouveauté qui, après une chute, lui cause un épanchement de synovie au genou et lui interdit définitivement la pratique des sports de montagne. Pendant l'été 1908, le bureau de l'enregistrement de Campan est supprimé et Louis, affecté en Dordogne, décide de démissionner. Cela fait longtemps qu'il songe à sa reconversion. Pour Lé, le bon Didier commence une nouvelle vie, une nouvelle activité beaucoup plus prenante, organiser l'émergence du tourisme dans les Pyrénées. Il décroche d'abord une petite subvention pour rénover, aménager et chauffer l'ancien hospice de Payol, futur hôtel de l'Arbison, et le transforme en refuge d'hiver pour les skieurs. Ils enchaînent par l'hôtellerie du Pic du Midi à Sancourt, actuelle hôtellerie de Costala. Et l'année suivante, ils organisent à Payol le premier concours de ski des Pyrénées. Alors que Louis continue de réunir et de collectionner livres et documents sur l'histoire des Pyrénées, Margalide aime fréquenter les foires, les marchés locaux, pour glaner et réunir des objets typiques de la région. Quand arrivent les temps difficiles de la Grande Guerre, Louis, exempté, est enrôlé comme ambulancier à Bagnères, pendant qu'à Lourdes, Margalide s'occupe des réfugiés lorrains en leur apprenant la sculpture sur les portes de leur appartement. En 1918, quand la vie économique reprend, le couple Le Bon Didier, désormais connu pour ses initiatives touristiques, est sollicité pour mener une campagne de promotion des Pyrénées à travers la France. À leur retour, Louis est nommé inspecteur de l'Organisation touristique nationale. Margalide, elle, poursuit sa collecte des traditions pyrénéennes. De fil en aiguille, une idée émerge dans leur esprit et le château de Lourdes en ruine attire leur attention. C'est après avoir visité le musée Arlatène à Arles que Louis a le déclic. Parcourant le vieux château, l'idée me vint qu'il y avait autre chose et beaucoup mieux à faire. Ce qu'il fallait faire, c'était doter les Pyrénées du musée que Mistral avait donné à la Provence, dans le même sentiment de conservation, de glorification et de prosélytisme. Il fallait créer un musée de l'ensemble de la chaîne et sous tous les aspects de l'activité et de l'art humain dans les Pyrénées. En juillet 1920, le projet se concrétise sous la forme d'une convention entre la ville de Lourdes et le Touring Club de France pour 99 ans. Le couple Le Bon Didier a carte blanche pour la création du musée pyrénéen. Ils y investissent tout leur temps et leur argent en réparation et aménagement de salles laissées depuis longtemps à l'abandon. L'ouverture au public se fait en mai 1921 et l'inauguration officielle par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Léon Bérard, se fait en septembre 1922. Louis est nommé conservateur honoraire et Margalide secrétaire, puis rapidement conservatrice adjointe. D'abord bénévole, ce ne sont que plusieurs années plus tard, alors que le nombre d'entrées payantes au musée a explosé, que Louis réclame un salaire. Le 21 avril 1921, Louis et Margalide dorment pour la première fois dans le château où un appartement a été aménagé à leur intention. Et voici comment a été fondé à Lourdes le musée pyrénéen. Margalide ne cesse de travailler et d'année en année, les reproductions de maisons régionales se multiplient sur l'esplanade du château. Elle conçoit même l'éclairage intérieur des maquettes, met en scène des personnages taillés dans le bois. En 1931, la barre des 100 000 visiteurs par an est dépassée. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage intitulé « Femmes d'exception en Midi-Pyrénées », ouvrage écrit par Philippine Arnal et publié en 2012 par les éditions du Papillon Rouge.
Voilà, le château fort et son musée attirent toujours de très nombreux visiteurs. Et les maquettes ont un grand succès auprès du public. Il faut dire qu'elles sont très très réussies. On peut admirer une maison basque, une maison de Salis du Béarn, Saint-Bertrand de Comminges, un village du Haut-Aragon, etc. En plus, elles sont bien exposées. Elles sont sur la grande terrasse. On a une vue sur Lourdes et c'est magnifique.
Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai beau les voir et les revoir, je les admire toujours autant.
Oui.
Et on peut préciser, Philippe, que ces maquettes sont construites avec du fer, du bois, du ciment, des ardoises. Et les détails et les mises en scène sont remarquablement soignés.
Voilà, et c'était Margalide qui l'avait fait, tout ça.
Oui, oui, oui.
On peut également signaler qu'à l'intérieur de la forteresse est présenté un riche patrimoine évoquant la vie domestique, la vie rurale et pastorale au XIXe siècle. Des expositions ont lieu régulièrement dans les murs du musée pyrénéen. Cet été, une exposition a été consacrée au pyrénéiste et photographe Lucien Brié.
Oui, et tout cela, c'est grâce à Louis et Margalide Le Bon Didier. Et deux sommets portent d'ailleurs le nom de ces amoureux des Pyrénées. Il existe un pic Le Bon Didier et un pic Margalide. Et si je ne me trompe, Philippe, je crois qu'ils sont tous deux dans le massif de la Maladeta.
Je vous crois sur parole. On peut enfin rappeler qu'une curieuse légende est attachée au château fort de Lourdes. Charlemagne, en revenant d'Espagne, a assiégé ce château dont le seigneur était alors un prince sarrasin du nom de Mira.
Oui, et le château alors s'appelait Mirambel et le siège se prolongeait. Le château était à court de vivres et un aigle qui venait de pêcher une énorme truite la laissa échapper en survolant le château.
Habileté suprême, hein. Mira offrit cette truite à Charlemagne, faisant croire que le château regorgeait de provisions.
Et oui.
Voilà. Et donc, c'est ce qui explique le blason hein, de
voilà.
La ville de Lourdes, hein, avec
oui.
La truite,
voilà,
l'aigle.
Voilà, les tours du château.
Exactement.
Et la truite.
Et en fond, les sept pics des Pyrénées.
Voilà.
Voilà. La semaine prochaine, avec vous, vous évoquerez la vie d'autrefois dans le Béarn, grâce à un ouvrage du journaliste Jean-François Ratona. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
Merci beaucoup, Anne Lasserre. Au revoir.
Au revoir.
Voilà pour Regard des écrivains sur les Pyrénées. Il s'agissait d'une rediffusion enregistrée il y a quelques temps avec donc Anne Lasserre et Philippe Subercase.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio
www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Dans un instant, direction la librairie de l'abbaye de Tournai dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec Frère Martin. Frère Martin qui nous conseille la lecture d'un ouvrage de Samuel Liévin qui a fait se rencontrer deux femmes, Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel qui a été assassinée à Saint-Étienne de Rouvray, et à Nassera Kermiche, la maman du terroriste. Ce livre s'appelle Sœur de douleur. Il va nous en parler au micro d'Anne-Rose Jankovic juste après avoir fait un point complet sur l'actualité régionale. L'info aujourd'hui nous est présenté par Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac. Bonjour Carla.
Bonjour à tous. À Toulouse, des habitants de la rue Jules Amiot dénoncent des verbalisations à répétition pour stationnement sur un trottoir. En 2 ans, le montant cumulé des amendes dépasserait les 300 000 euros. Depuis un réaménagement ayant supprimé plusieurs places, certains n'ont plus d'alternative pour se garer. La mairie rappelle l'interdiction formelle de stationner sur le trottoir, malgré le retrait temporaire de Potelet pour des travaux. Les habitants, eux, demandent des solutions concrètes. Depuis quelques jours, une dizaine de vols à la roulotte ont été signalés à Foix, Montgaillard et Pamiers. La police de l'Ariège alerte les habitants et recommande plusieurs précautions. De rien laisser visible dans les véhicules, fermer les portes et fenêtres et éviter de laisser des documents personnels ou supports GPS. Il est aussi conseillé de se garer dans des endroits éclairés et fréquentés. En cas de vol ou tentative, il faut contacter le 17 sans toucher au lieu. Bien que les travaux de la nouvelle portion de la RN21 au sud de Villeneuve-sur-Lot soient terminée, la voie rapide n'est pas encore ouverte à la circulation. Cette section de plus de 2 km est prête à accueillir les véhicules, mais plusieurs aménagements annexes restent à finaliser. Ces derniers équipements sont essentiels avant la mise en service. L'ouverture officielle est annoncée pour septembre ou octobre, une fois ces derniers détails achevés. Et c'est confirmé, l'Union européenne valide enfin le projet Montésic 2 en Aveyron. EDF va investir 500 millions d'euros pour creuser une seconde usine dans la montagne sur le site hydroélectrique existant. La puissance de la station passera de 920 à 1400 mégawatts, faisant de Montésic un acteur clé du stockage d'électricité en France. Jusqu'à 400 emplois seront mobilisés au plus fort du chantier. À Lourdes, une équipe de techniciens veille chaque jour à retransmettre les célébrations religieuses du sanctuaire dans le monde entier. Cachés derrière les écrans, ils captent messes, processions et gestes d'émotion pour les diffuser sur les chaînes officielles suivies par des millions de fidèles. Présents de 8h à 22h30, ils jonglent entre enjeux spirituels et contraintes techniques. Leur mission, transmettre la foi sans jamais être intrusif. Grâce à eux, Lourdes règne bien au-delà des Hautes-Pyrénées. Et cette année, Cultura et les Blues Roses 82 ont renouvelé leur partenariat en proposant aux résidents des EHPAD de Montauban des ateliers créatifs. Accompagnés par une animatrice de Cultura, ils ont personnalisé des coffrets en bois, partageant ainsi un moment convivial et créatif. Les Blues Roses recherchent toujours de nouveaux bénévoles pour la rentrée, avec formation et accompagnement assuré.
Voilà pour l'actualité régionale. Merci à Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac. Dans quelques minutes, nous retrouverons Annick Balleri et Philippe Subercaz pour parler des mimosas. C'est les mimosas qui ont été découverts en Australie. Et ce sont les Anglais qui ont importé les mimosas à la fin du 19e siècle en s'installant sur la Côte d'Azur. On en parle juste après avoir retrouvé Frère Martin de l'abbaye de Tournai dans le diocèse de Tarbes et Lourdes au micro d'Androse Jankovic pour notre chronique hebdomadaire Coup de cœur en librairie.
Radio Présence à Belmont-sur-Anse 93.1.
Bonjour Frère Martin.
Bonjour à vous tous.
Merci de nous retrouver au cœur de cet été pour une nouvelle chronique littéraire. La dernière fois, nous avions parlé d'un roman qui nous emmenait dans une histoire de Londres. Et cette semaine, eh bien, nous allons parler de toute autre chose puisque nous allons commémorer la mort, l'assassinat du père Jacques Hamel. C'était à Saint-Étienne de Rouvray le 26 juillet 2016. Et vous allez nous présenter aujourd'hui un ouvrage tout à fait exceptionnel du journaliste Samuel Liévin, qui a fait se rencontrer deux femmes extraordinaires. Expliquez-nous.
Alors, c'est l'interview donc de ce journaliste qui rencontre Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel qui a été assassiné, et Nassera Kermiche, la maman du terroriste.
L'ouvrage s'appelle « Sœurs de douleur » et pour cause, puisque ces deux femmes ont souffert de l'assassinat du père Jacques Hamel, chacune à sa façon, l'une étant sœur du prêtre et l'autre étant la maman de l'assassin. Ce livre, il raconte la douleur de ces deux femmes ou le réconfort qu'elles trouvent l'une dans l'autre?
Ce livre, dans un premier temps, nous parle de... Samuel Liévin raconte comment il a vu les deux femmes, et puis il nous présente, ce qui est intéressant, leur trajet de vie. Mmh. C'est intéressant d'entendre le parcours de Roselyne Hamel, qui a eu finalement une enfance très difficile, qui était avec sa maman, qui a été, entre guillemets, kidnappée par son père. Elle a vécu séparée du reste de la famille. Enfin, elle a vécu une vie difficile. Elle a dû toujours beaucoup se battre. Et puis là, elle était à la retraite et elle vivait quelque chose de plus plaisible avec ses enfants, ses petits-enfants. Et donc, ils étaient en vacances chez le père Hamel avant d'aller rejoindre l'Auvergne. Et de l'autre côté, on voit le trajet de Nassera Kermiche, cette femme... Voilà, ben qui a vécu en France tout à fait intégré, qui a élevé ses enfants, les autres enfants sauf Adèle ont très bien réussi dans la vie. Elle a une fille qui est chirurgienne. Enfin, voilà, chacun a leur métier, une vie tout à fait intégrée et normale. Et on voit comment le jeune Adèle, lui, qui était plutôt quelqu'un d'hyperactif, vous voyez, qui a eu quelques soucis à l'école et qui petit à petit a été marginalisé. Mmh. Et puis finalement un jour, il y a eu un plus grave problème. Il a été en prison, et c'est pendant ce temps qu'il a passé en prison que là, il est revenu parlant arabe couramment et ayant contact avec des gens qui, sa mère a compris qu'il avait été radicalisé.
Donc elle raconte comment elle a été témoin de la descente aux enfers de son fils.
Oui, elle est témoin, et à la fois, ce qui est intéressant, c'est qu'elle essaie aussi de lutter, quoi. Elle essaie de le ramener, il a sa façon de vivre, elle garde sa façon de vivre, parce que son fils la critique parce qu'elle vit pas comme l'islam, mais elle garde sa façon de vivre, elle essaie à la fois de l'aimer, et je trouve qu'elle a une relation quand même assez ajustée, et lui, il a été tellement bien endoctriné que voilà, il en est arrivé là.
Donc ce livre, Sœurs de douleur, ça n'est pas un ouvrage qui nous rappelle ou qui ressasse la barbarie et l'horreur de l'assassinat, même si j'imagine qu'on en parle.
Oui, mais on parle, et c'est intéressant, c'est qu'on voit comment Roselyne a vécu ça chez elle, où elle était complètement dans le déni. Son frère était en retard, elle lui dit « bon, il va revenir, il parle d'un truc à Saint-Étienne-du-Rouvray », mais un journaliste lui téléphone même, elle dit « est-ce que c'est vous qui avez eu un attentat ?» Elle répond « ben non, je serais bien au courant, plaf, et raccroche, quoi, vous voyez ?» Et après, elle est tenue à l'écart, elle dit cette violence de ne pas avoir pu être là. Et à l'inverse, on voit aussi la journée de Nassera qui, bon, mais son fils n'est pas là, il ne revient pas. Et puis après, elle se met à l'évidence parce que les chaînes d'infos montrent qu'il y a eu un attentat, elle comprend que c'est son fils, quoi. Et elle n'a pas réussi, il avait un bracelet électronique, il avait le droit de sortir. Et voilà, elle a...
Est-ce que cet ouvrage raconte aussi la grandeur du pardon, au fond, qu'elles ont l'une envers l'autre? Alors, ce ne sont pas elles qui sont coupables, mais elles portent quand même le poids de cette tragédie. Est-ce qu'elles parlent de la nature de leur relation? Est-ce qu'on peut parler d'amitié entre ces deux femmes-là?
C'est-à-dire, plutôt que de parler d'abord du pardon, entrer dans la dynamique, c'est Madame Hamel qui souffre beaucoup, et elle se dit, mais qui souffre autant que moi? Et tout d'un coup, elle pense en elle-même que la maman d'Adèle peut-être souffre aussi beaucoup comme elle, et donc, du coup, petit à petit, par quelqu'un, elle réussit à entrer en contact avec eux, elle y va avec l'évêque et tout, et au début, les rencontres, elle lui parle juste deux minutes au téléphone, puis un petit peu, et après, c'est une relation d'amitié et de confiance, parce qu'elle partage d'abord, c'est bien ça, le titre du livre, Sœurs de douleur. Elles partagent chacune leur douleur.
Dans leurs échanges, qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'il y a de l'espérance ou est-ce qu'elles sont dans la complainte, dans le fait de ressasser leur souffrance et leur douleur? Sœurs de douleur, le titre est quand même fort. Oui. Est-ce que ce sont deux femmes qui sont restées bloquées dans leur douleur ou est-ce qu'il y a quand même de l'espérance qui jaillit de leur dialogue?
Elles partagent leur douleur et à partir du moment où elles l'ont partagée, il y a un chemin qui peut se faire.
Ah oui,
et donc, du coup, on sent une évolution jusqu'à une scène que nous, quand on a lu ça au réfectoire, on a lu en plus ce livre au réfectoire, Roselyne Hamel lui demande d'aller au lieu où il y a la sépulture d'Adèle, quoi. Et elle va remettre une lettre et un mot, et c'est... Voilà, au début...
Il est là, le pardon.
Et voilà, il a le pardon, mais au début, on pense que c'est pas possible, quoi. Mmh. Et surtout que c'est un endroit où la tombe est anonyme. On peut pas, personne ne peut savoir là où il y a. Et après, donc, il y a Nasser Akhermish qui va sur la tombe du Père Amen. Alors là, évidemment, dans les hauteurs de Rouen, il paraît que c'est incroyable. Enfin, il y a.
Donc, pour faire ce chemin, pour que Roselyne Hamel aille sur la tombe d'Adèle et que Nasser Akhermish aille sur la tombe du Père Jacques Hamel, c'est un chemin que l'une et l'autre doivent faire ensemble.
Oui, et puis ils ne l'ont pas décidé. Que, ouais. Ça se fait naturellement, quoi. C'est ça qui est. Mm-hmm. Ça se fait petit à petit, quoi.
Alors là, on est quand même peut-être plus dans un livre plus difficile à lire, avec un public peut-être un peu averti par rapport aux ouvrages dont vous nous avez parlé les dernières semaines.
Non, au contraire, je pense que beaucoup de gens peuvent lire, même des plus jeunes, parce que le style, c'est plutôt la difficulté, c'est qu'il y a des scènes qui sont denses et puissantes, quoi. Voilà, oui. C'est ça.
Oui.
Mais au contraire, je trouve que beaucoup de jeunes devraient lire ce livre, et beaucoup de gens, voilà, ça nous ramène vraiment à une réalité, mais voilà. Ces gens qui étaient d'une confession musulmane, eh bien, ils sont, tout le monde est pas radicalisé. Et ce qui est intéressant, c'est le jour de l'attentat, quand la police débarque chez les Kermis, pensant que tout le monde est terroriste, et en fait, ils sont tous surpris et ils subissent ça vraiment de façon très lourde, quoi.
Voilà, bien un livre vraiment incontournable, Sœur de douleur, du journaliste Samuel Liévin, qui raconte la rencontre de deux femmes vraiment exceptionnelles, Nasser Akhermish et Roselyne Hamel. La maison d'édition,
c'est XO Édition. Et le prix du livre est de
19,90 €.
Voilà.
Même merci. Pas 20 €. Merci beaucoup, Frère Martin.
Bonne lecture à vous.
Et merci donc à Frère Martin de l'abbaye de Tournai, qui se trouve donc dans le diocèse de Tarbes-Lourdes. Et merci aussi à Anne-Rose Jankovic. La suite de cette émission, direction Le Jardin, dans un instant avec Annick Baléry et Philippe Subercaz. Annick a décidé de nous parler des mimosas. Et puis, dans moins d'une demi-heure, l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican.
Présence.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Au mon pays, au Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. Se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. Peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz. Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Mes ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Au Païs, au Toulouse, oh Toulouse.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Nous sommes en Australie depuis la semaine dernière. Annick Valérie, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors on voyage avec vous. Alors c'est vrai qu'on est tranquillement installé dans les studios de Radio Présence. Quand je dis qu'on est en Australie, c'est parce que la semaine dernière, vous avez parlé de ce magnifique arbre qui est l'eucalyptus. Et là, on va parler du mimosa. Alors vous voyez, j'ignorais que le mimosa a été découvert en Australie.
Voilà, si vous faites une reconstitution de film sur le Moyen-Âge ou même sur le XVIe siècle, vous avez interdiction de mettre du mimosa dans le paysage. C'est ce genre de choses que je regarde quelquefois.
Ah, les films historiques avec un regard, hop hop hop, ils ont tourné, là il y avait du mimosa, c'était pas possible.
Non, c'est pas possible.
D'accord.
Et donc ça fait partie des arbres donc, qui ont été rapportés par l'expédition Cook, et les premières graines ont été plantées au jardin royal de Kew. Et c'est en fait les Anglais qui nous l'ont apporté au fin du 19e siècle, en commençant à s'installer l'hiver tout autour du pourtour méditerranéen. Ils sont venus avec leurs plantes de collection. Mmh. Et c'est à ce moment-là que la culture du mimosa s'est vraiment répandue.
Alors c'est vrai que quand on voit le mimosa fleurir de cette belle couleur jaune, ah, on se dit l'hiver commence à se terminer. Mais il n'est pas rare de voir des premières floraisons et de la neige dessus.
Ouais, c'est arrivé. Alors moi j'avais un mimosa dans le jardin et il a fleuri pour la première fois à la naissance de mon fils en février. C'était un cadeau, un bouquet doré sous la neige. Bon, quand la neige arrive quand même, il vaut mieux les secouer parce que ce sont des arbres qui sont quand même cassants. Hein.
Oui, et le poids de la neige.
Et alors, cette floraison inversée, c'est le fait aussi de que ce sont des arbres de l'hémisphère sud, donc ils ont une floraison qui ne s'est toujours pas adaptée. Ils n'ont pas compris encore où ils habitaient.
Ils sont toujours inversés, alors.
Voilà. Alors, mauvaise dénomination, le mimosa, en fait, est un acacia. Et ce qu'on appelle un acacia, c'est un robinier. Voilà. Donc oui, et voilà, vous suivez.
Oui.
Vous suivez, voilà. Donc ça fait partie de la famille des fabacées. Alors les fabacées, j'en ai déjà parlé, c'est la famille des fèves.
D'accord.
Alors, voilà, c'est genre de légumineuses qui font des gousses. Donc si vous regardez bien, votre mimosa va faire des petites gousses dures quand il aura fini de fleurir. Et ce sont des arbres qui, les fabacées, ont souvent la capacité de stocker de l'azote de l'air dans le sol, dans des petits nodules qu'ils ont attachés aux racines, et ce qui leur permet aussi de venir en terrain pauvre. Donc terrain sableux au bord de la mer, pas beaucoup à manger, c'est pas grave, l'acacia va se débrouiller.
D'accord.
Un des inconvénients du mimosa, donc le vrai acacia, c'est qu'en fait il galope beaucoup et qu'il peut devenir invasif.
Oui.
Voilà.
Mmh.
Et puis il a des racines traçantes qui quand même peuvent mettre en péril les terrasses, donc c'est un arbre qu'il vaut mieux éviter de planter vraiment contre la maison. Mmh. Puis de la même façon, si vous avez des canalisations où ils sont susceptibles, ou des drainages où ils sont susceptibles de glisser les racines, attention, hein, parce que vous vous retrouvez avec des gros problèmes après.
Oui, ça peut le casser carrément.
Hein. Oh, ça s'introduit, puis ça bouche les canalisations. Enfin, ça peut, voilà. Surtout les drains, hein, puisque les drains ont quand même des entrées. Voilà. Donc deux types de feuillage, et vous avez un feuillage plein et puis un feuillage un peu plumeux, hein, qui est assez joli. Et parfaitement adapté au climat méditerranéen, hein, comme je l'ai dit déjà à propos de l'eucalyptus, c'est ça, c'est un climat qui correspond assez bien au climat de l'Australie.
Alors je vais peut-être vous poser une question idiote, Annick Valéry, mais alors à part être joli, est-ce que ça sert à quelque chose ?
Ah bon, on en a fait du parfum. C'est un parfum qui est un peu passé de mode parce qu'il est assez sucré, mais Grasse en particulier a fait des parfums avec du mimosa. Bon, c'était des parfums qui devaient être à la mode dans les années 20, hein, pas vraiment maintenant. Donc il y avait une route du mimosa qui partait de Bormes-les-Mimosa, d'où le nom, et puis qui passait par Saint-Raphaël et qui arrivait à Grasse, une route qui fait un peu plus de 100 km, 130 km. Voilà, et toute cette bordure était occupée par les mimosas.
Donc aujourd'hui on s'en sert uniquement pour faire joli, quelque part.
Oui, après, il y a eu toute une industrie de la fleur coupée qu'on a un peu oubliée. Bon, on arrive à en voir maintenant sur les marchés, parce qu'il y a des gens qui en ont chez eux. Souvent, sur les petits marchés, à côté de l'étal de légumes des mamies, là, on voit le bouquet de mimosa. Il y a eu un commerce qui, un peu comme le commerce de la violette, hein, qui a profité de l'installation du train, et qui acheminait des bouquets vers Paris. Mais les bouquets étaient acheminés vers. Et alors, on a découvert comment faire éclore le mimosa. C'est comme ça que le commerce s'est développé. Un jour, un amoureux a offert à sa belle, qui était lavandière, ou blanchisseuse, un bouquet de mimosa. Et donc, elle l'a installé dans la buanderie. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, les fleurs s'ouvraient, alors que le mimosa était ouvert. Donc on a compris qu'il fallait une certaine température, à peu près 25 degrés et 85%
d'humidité,
et qu'après c'était super. Donc il y a des petits génies qui ont inventé des machines qui ressemblaient à une étagère, vous savez, ce dont on se servait avant pour faire sécher les bouteilles. Ces espèces de pyramides avec des, voilà. Mais à la place des pointes, vous imaginez des cornets dans lesquels on met de l'eau, on glissait tous les bouquets de mimosa dedans et on faisait venir de la vapeur, et donc tout ça éclosait et on pouvait vendre les fleurs écloses.
Et donc le voyage, quand c'était vert, ça se passait bien,
voilà,
et on les faisait donc éclore
avant. Après, juste avant de les commercialiser.
C'est malin quand même.
Ouais, c'est malin,
c'était
voilà.
Malin
tout ça à cause d'un amoureux. Je vous signale que la violette, c'est pareil. C'est une violette de Parme qui a été donnée par un amoureux italien à une belle Toulousaine. Donc, bonne mère. Voilà. Et donc, des jolies histoires. Alors, chez nous, ça peut devenir invasif. Il y a des coins en Provence où on se plaint un peu parce que justement les racines sont traçantes et que ça, les reliefs, tout ça, ça les inquiète pas.
Hein. Alors, la floraison, on a dit que ça démarrait fin janvier, début février.
Février, voilà.
Ça dure combien de temps ?
Ben, je vais vous dire, comme Fernand Reynaud,
ça dépend.
D'abord parce qu'il y a plusieurs variétés de mimosa, hein, qui sont plus ou moins tardives. Mais on peut penser qu'au début de l'été, la floraison est terminée.
Et c'est remplacé par une feuille ?
Alors, vous avez les feuilles, puis vous avez les petites gousses coriaces, voilà, qui envoient des graines partout, d'où le côté aussi invasif, suivant à l'endroit où elles se trouvent. Alors, ça a été un gros problème, par exemple, en Afrique du Sud, où ça s'est super bien adapté, mais tellement bien adapté que, bon, ils ont eu quelques soucis. Donc, pour lutter contre ça, ben, toujours pareil, l'arrachage manuel, bon courage, parce que les racines traçantes, elles sont quand même assez costauds. Et puis, les produits chimiques, mais ça, on essaie d'éviter. Et après, on a essayé aussi la lutte intégrée. Alors, la lutte intégrée, c'est ce que je vous disais l'autre jour pour traiter la bouse en Australie. On avait introduit des insectes, et là, on utilise une guêpe australienne qui pond sur les fleurs. Après, ça fait des genres de grappes de galles. La plante fait une réaction un peu comme nous quand on fait un bouton, quand on est piqué par un moustique. Et donc, ça empêche la gousse de se former.
Et donc, de se propager.
Et de se propager. Mmh. Et de la même façon, il y a aussi un insecte qui s'attaque aux graines, qui a un charançon. Alors, je ne sais pas si vous voyez le charançon. Quelquefois, quand on garde les haricots secs un peu longtemps, vous avez des petites bébêtes qui se développent dedans. C'est le même style de bestiole. Mmh. Il y a un charançon spécialisé dans la graine d'acacia. Donc, c'est par ce biais-là qu'on a trouvé d'autres façons de lutter.
Ce qui est impressionnant à vous écouter depuis des semaines, c'est que les anciens avaient trouvé des façons naturelles et d'intelligence de venir à bout de certains inconvénients, vous l'avez dit, par l'abeille, par...
Après, c'est pas si...
Alors qu'aujourd'hui, on part vers la chimie, souvent.
C'est pas si vieux que ça, et puis ça a beaucoup été par observation, et il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de cerfs maintenant qui fonctionnent comme ça, et avec des populations qui sont capables de venir à bout de populations de pucerons ou de cochenilles. Ben, on a ça à Lourdes depuis plus de 15 ans, dans les serres municipales. Mais après, il faut absolument éviter les produits, parce que toutes ces populations qui se reproduisent d'une année à l'autre, il ne faut pas perturber leur équilibre.
C'est ça. Donc, revenons à des choses un petit peu logiques. Voilà. Quand il n'y avait pas la chimie, on faisait quand même et on faisait de façon naturelle.
Alors, il existe maintenant des gens qui font fortune dans le commerce d'insectes. Donc, vous recevez des colis minuscules, mais alors minuscules. Parce que à l'intérieur, vous avez des œufs d'insectes, donc ça n'a pas besoin d'être gros.
Ouais.
Et les œufs sont quelquefois, ou les larves sont soit sur des supports papier. Vous avez tous les petits œufs sur le support papier. D'accord. Vous installez ça au milieu de vos cultures et les bébêtes sortent et viennent à bout des prédateurs. Ou alors vous avez des pop-corn aussi. Alors sur les pop-corn, vous avez les larves et vous installez ça aussi au milieu de vos plantes.
D'accord.
Et il y a des gens dont c'est le métier. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Ah oui, ça doit être...
et ça peut valoir très cher. Ça peut valoir très très cher. Il existe par exemple des prédateurs parasites du châtaignier. Moi, j'ai entendu dire que la dose qu'on pouvait mettre, alors bon, certainement il y en a beaucoup, dans une châtaignerie, la dose vaut 120 euros quand même. Ça ouvre des horizons. Hein. Je sens que vous allez cultiver la coccinelle.
Bien, allez, je vais donc réaménager tout ça et pour faire le commerce. C'est étonnant puisqu'on revient à des choses naturelles et des choses sensées, puisque les anciens avaient quand même cette intelligence-là d'observer et de regarder comment on pouvait transformer les choses de façon naturelle.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, le mimosa, vous l'avez dit, il vient d'Australie, il a été importé plutôt. Quels sont les pays qui l'utilisent? Est-ce qu'aux États-Unis, on trouve du mimosa aussi?
Oui, alors en Californie, il est devenu invasif. Donc voilà, c'est le problème. C'est-à-dire que si le climat lui convient, oui, mais pas trop. Bon, ça va, il reste sage, mais quelquefois, dans certains milieux, il galope.
Il s'enflamme.
Alors là, oui, et ça devient compliqué. Donc, on le regarde peut-être avec moins de bienveillance que nous, au fond de nos jardins, là, la petite torche jaune, là, sympathique.
C'est très joli, surtout l'hiver.
Oui, et puis c'est un parfum extraordinaire, moi j'adore. Hein. Alors, il paraît qu'on peut y être allergique, moi qui suis allergique à des tas de choses, ben, je ne suis pas allergique
celui-là.
À ça.
Mais vous voyez, voilà. Il vous reste un espoir.
Tout arrive. Voilà. Et bon, je vous conseillerais quand même, si vous avez une petite place, contre un mur, mais un mur extérieur, enfin voilà. Il ne faut pas que ça aille chez le voisin non plus.
Mais
c'est vraiment un arbre, comme vous dites, c'est du soleil au milieu de l'hiver.
De l'hiver, hein. Oui. On peut le tailler, ça se taille
Oui, ça se taille très très bien. Oui.
On le taille comme ça, il peut rester dans une...
Voilà, le problème c'est que souvent il y a d'autres sujets qui se forment sur les racines. Et donc vous avez un mimosa et puis un jour vous en avez 10. Donc, surtout si vous avez un sol sableux. Donc, l'idée, c'est de les distribuer autour de vous en donnant les précautions d'usage quand même. Mmh. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que les années où ça gèle et où c'est vraiment détruit par le froid, vous avez toutes les chances que ça reparte du pied.
Ça reparte quand même.
Voilà.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà, après l'eucalyptus et le mimosa, nous étions donc en Australie avec vous. Nous reviendrons la semaine prochaine dans nos jardins, puisque vous allez nous parler des semis de tomates.
Voilà, ça et va être le moment. Il faut préparer ces petits pots et tout et tout.
Voilà, et pour avoir et pour manger des bonnes tomates à partir donc du printemps et l'été prochain. Merci beaucoup, Annick Baléry.
Merci, Philippe. Super case.
Vous nous avez fait voyager et on a appris, comme chaque semaine, plein de choses. Au revoir, Annick.
À bientôt.
Présence. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur.
Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs.
Jasmin,
jasmin,
lilas,
lilas.
C'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça,
changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.
Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles.
Écoutez.
Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain.
Mais demain, c'est pareil. Demain, désirer, là tout au fond du cœur. Changer en douceur.
Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs.
Thank you.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
L'aide humanitaire à Gaza reprend timidement depuis Rafah. Nous irons en Égypte alors que les craintes s'accroissent d'une